Nous sommes mercredi 14 mai 2025 et vous écoutez le Dojo Bar.
Bar.
Bonsoir à tous, bonsoir Mecton.
Et bonsoir.
Et c'est une émission très très intimiste puisque pour l'instant nous ne sommes que deux.
Ouais, ça fait plus à boire, c'est bien.
C'est ça. Bâtard, on est que deux. C'est à peu près ça. J'espère que Monsieur Antix pourra nous rejoindre. Il avait malheureusement une petite. Enfin, malheureusement. Heureusement pour lui, malheureusement pour nous.
Rien
une
de grave.
Petite, ouais. Un petit empêchement. Voilà. Un petit empêchement associatif. Donc j'espère qu'il pourra nous rejoindre en cours d'émission si l'envie lui prend. Parce que on va revenir dans cette émission sur un de ses jeux fétiches qui est Xenoblade Chronicle X.
Cross.
Parce que finalement il est ressorti sur Switch, c'est un jeu qu'on ne pensait plus voir arriver, donc ça fait quand même plaisir. Apparemment ça s'est pas hyper bien vendu de ce qu'on a pu voir pour le résumé de truc investisseur Nintendo, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Oui, la présentation aux actionnaires des chiffres de l'année. Ouais.
Bon, après il est sorti en toute fin d'année fiscale, puisqu'il devait être disponible genre fin mars ou une connerie comme ça.
C'est ça.
Donc effectivement, elle a peut-être pas eu le temps de beaucoup se vendre, mais voilà, donc c'est intéressant de revenir dessus, d'autant plus qu'il y a un petit chapitre inédit, alors que malheureusement je n'ai pas fait, toi non plus, me semble-t-il.
Non plus, mais voilà. Ce qu'on disait en off, à la limite, c'est... Voilà, ne soyez pas inquiets, du coup il y aura zéro spoil.
C'est ça, on a quand même eu un petit mot de Antix pour nous décrire exactement ce qu'il en avait pensé, comme c'est le spécialiste de la question, on reviendra dessus. On ira aussi un petit... un moment grave, un débat sur la fin de vie, hein.
Oui, c'est d'actu...
Voilà, non, alors la fin de vie des consoles, hein, attention, on n'est pas du tout dans ce genre de délire. Oui, non, mais voilà. Notamment parce que eh bien, le calendrier de la Switch se vide. J'allais dire d'heure en heure, c'est pas tout à fait ça, mais de jour en jour, la Nintendo Switch a l'air d'être vraiment complètement abandonnée. C'est-à-dire quand tu regardes le calendrier pour les 6 mois à venir, c'est désespérément vide.
Ouais, on dirait une Wii U 6 mois après la sortie.
Ouais, tu crois pas si bien dire. On y reviendra. Mais en attendant, nous allons faire un petit tour de l'actualité et je vais commencer avec un petit truc très triste, ce qui fait saigner mon petit cœur de collectionneur et de préservationniste, ça veut rien dire, mais je fais ce que je veux. Doom The Dark Ages, donc Bethesda, donc Microsoft, hein, si vous avez suivi.
Ouais.
Voilà, c'est compliqué.
Poupée russe, quoi.
Poupée russe. Sort Doom The Dark Ages est donc sorti et la version boîte disponible dans le commerce est en réalité une game keycard. C'est-à-dire que le Blu-ray, que ce soit sur la version Xbox One ou la version PS5, ne contient pas plus de, je crois que c'est 80 mégas de données.
Ouais, ce qui est quand même hyper lourd pour un booléen, mais...
tu as le jeu True False. Mais voilà, je trouve ça d'une tristesse sans nom. Après, ce qu'on nous dit, c'est non, mais les gens choisissent le dématérialisé. Ben non, les gars, vous l'avez dit, poussez quoi. Les Blu-ray de 100 gigas, c'est possible. Le jeu, il fait 80. Donc, vous auriez pu le sortir complet sur la galette. Alors, oui, évidemment, il y aurait eu des mises à jour. Oui, évidemment, il y aurait eu des patchs Day One. Oui, évidemment, il y aurait eu des DLC. Oui. Mais entre il y a 15 ans où on se plaignait que Resident Evil 5, le DLC était sur le disque, et en fait la seule chose que tu téléchargeais c'était une clé de déverrouillage.
Donc l'inverse du coup.
Et maintenant on a exactement l'inverse.
Ouais.
Voilà, je trouve ça un peu triste, d'autant plus que je me permets de rappeler à Sony, à Microsoft, à Nintendo aussi, hein, parce que voilà, pourquoi pas. Le principe d'une console, en fait, c'est que tu mets la galette dans le manche-disque et tu peux jouer immédiatement. Et si tu perds ce côté immédiat, parce qu'il faut installer le jeu, parce qu'il faut le télécharger, bah la console perd un peu de son intérêt par rapport à un PC. Voilà.
Carrément, carrément. Et on parle pas de 5 minutes de patch. Enfin, je sais pas à quel point les connexions haut débit type fibré ou très gros débit fibré sont démocratisées, mais je sais pas quel est ton feeling là-dessus. Je pense que c'est le même que moi. Mettre une cartouche dans la console et devoir attendre 20-30 minutes avant de pouvoir voir le menu, ça va me gonfler.
Ben écoute, moi déjà, rien que le fait, j'ai appris que depuis la PS4, si je dis pas de bêtises, ou c'est spécifique à la PS5, où en fait quand tu mets la galette dans le manche-disque, de toute façon, il doit installer la console, installe le jeu quoi qu'il arrive.
Ouais, c'est un PC déguisé le truc.
C'est ça. Donc tu peux commencer à jouer, alors c'est pas 20 minutes apparemment, c'est un peu plus rapide que ça. Parce que je suppose que l'install est un peu optimisé de sorte à ce que... Tu peux démarrer le jeu, puis la console continue à l'installer en tâche de fond, finalement.
Oui, t'as un setup sur la galette, quoi.
C'est ça, en gros, t'as un setup sur la galette, mais moi, enfin, moi perso, ça me gonfle, quoi. Je veux dire, ce que j'aime bien avec la Switch, et j'ai un bon ami qui m'a dit récemment, pas quelqu'un du tout de geek, de branché, de quoi que ce soit, c'est vraiment pas un nerd, c'est vraiment une personne normale de la vraie vie. Il y en a qui existent encore. Et cette personne normale de la vraie vie m'a dit, la Switch, c'est vraiment la dernière vraie console, parce qu'effectivement, tu mets la cartouche, t'allumes, ça marche. Et je pense que ce sentiment va être partagé par énormément de gens dans les mois à venir, quand on n'aura plus que des Gamecube cards et des jeux en téléchargement.
Ouais, et on n'a même plus. Putain, je sais pas si tu te rappelles à l'époque quand t'allais acheter ton jeu, tu lisais le livret
Oui.
dans la bagnole en rentrant. Mais là, tu peux même pas lire le livret pendant que ça s'installe. Nul à chier.
C'est nul à chier, vraiment c'est nul à chier. Bref, petite nouvelle de Poudlard de ton côté.
Oui, ensuite micro nouvelle. Hein, c'est vraiment histoire de remplir. Joli move de. J'imagine que c'est Warner, l'éditeur. Donc vous savez le bordel du game key card, jeu complet, code dans la boîte, mise à jour, Switch 2 payante, blablabla, tout pour te sucer la moelle. Si vous êtes possesseur de Hogwarts Legacy sur Switch 1, donc le jeu va sortir dans une version de Switch 2, mais qui n'est pas une version améliorée, comment ils appellent ça? Switch 2 édition.
Oui, enfin,
C'est Pour le coup, voilà, c'est une autre version du jeu. Eh bien, si vous êtes possesseur de la version Switch 1 et que vous avez un compte Nintendo, il y a possibilité dans le shop d'acheter une réduction sur la version Switch 2. Et en gros, la version Switch 2 vous revient à 10 balles.
c'est pas mal.
Ce qui est franchement pas mal.
Oui, parce qu'effectivement, le Hogwarts Legacy Switch 1 n'est pas du tout le même que le Hogwarts Legacy PS5 et Xbox One. Il est vraiment découpé différemment et tout ça.
C'est ça, il est donc downgradé forcément, il est découpé en zones, il y a des temps de chargement quand on change de lieu, blabla. La version Switch 2 est plus proche de la version PlayStation.
Ah, pardon. Ah. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci technique.
J'ai cru que
Et
quand j'ai
puis.
dit Xbox, j'avais vomi.
Peut-être ça. Du coup, dernier petit truc, j'ai pu tester pour vous les virtual games, enfin le machin de Nintendo pour dire tiens, tu peux partager le jeu que t'as téléchargé vers une autre console d'un pote.
Alors attends, ça va être le bordel parce qu'on va avoir des virtual game key cards.
Attendez, quoi? C'est encore plus le bordel. Bref, le système de partage, en fait, moi j'ai pas beaucoup acheté de jeux en dématérialisé. J'ai acheté beaucoup beaucoup de cartouches par contre hein, de Switch, ça j'en ai un sacré paquet, mais il y a quand même des DLC gratuits, voire des DLC payants que j'ai pu acheter. Et un des problèmes que j'ai, c'est que j'ai un compte par an sur ma Switch. Il y a même deux comptes par an, parce qu'il y a le mien et celui de ma femme, et on a des comptes enfants. Et il se trouve que j'avais un problème depuis le début, c'est que quand tu télécharges un DLC d'un jeu que tu possèdes. Si tu y joues sur la console principale, bah tu peux y jouer avec tous les comptes parents, les comptes enfants. Mais si tu y joues sur ta Switch secondaire qui est sur le même compte Nintendo, je sais c'est le bordel ce que je suis en train de raconter là, j'ai perdu déjà la moitié de l'audience. Mais en gros sur ta Switch secondaire, il n'y a que le compte parent, le compte principal, qui peut profiter des DLC, les comptes enfants ne peuvent pas en profiter. Eh bien, avec la Virtual Game Key Card, ça marche. C'est-à-dire, tu peux aller prendre le DLC et dire finalement je veux qu'il soit sur cette console-là. Et ça fonctionne. Et donc, bah, j'ai les gamins qui ont pu profiter de DLC de je sais plus quel jeu qu'ils avaient acheté. Je crois que c'est Hogwarts Legacy où il y avait justement on en parlait. Le gamin, il avait récupéré gratuitement parce que je l'avais précommandé le jeu un Griffon, je sais pas quoi. Et en fait, sur la Switch OLED, il pouvait pas jouer avec. Sur la Switch normale, il pouvait jouer avec. Bah là maintenant, il peut y jouer sur la Switch OLED ou sur la Switch normale. Il suffit juste d'aller prendre ce DLC-là puis d'aller le transférer ailleurs. Et ça se fait
Ça,
assez
c'est
bien, c'est
plutôt
assez
cool.
rapide.
J'ai deux questions.
Oui.
Est-ce qu'il y a des bridages, genre un jeu PEGI 18, tu ne peux pas le transférer vers ton enfant?
Alors, a priori non, parce que c'est vraiment tu transfères le jeu d'une console à une autre ou le DLC d'une console à une autre.
Ok,
Donc c'est vraiment le
ok,
truc complet.
ok.
Sachant que sur la console secondaire, en fait, techniquement, le DLC est là. C'est ça que le truc un peu stupide là-dedans, c'est que techniquement, le DLC est là. La seule chose qui se passe, c'est que tu ne peux pas y accéder depuis les comptes enfants, seulement depuis le compte principal sur ta console secondaire. Donc quand tu utilises ce système-là, en fait, tu dis, bah, ce DLC, je vais pas m'en servir sur cette console, je vais m'en servir là, et à ce moment-là, il est complètement déverrouillé.
Ok.
Alors après, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation où ils ont deux consoles avec des comptes partagés, des comptes enfants, des comptes parents. Je suis peut-être une des rares personnes à avoir ça, j'en sais rien. Mais c'est vrai que bon, c'est un peu
Non, c'est
pénible, quoi.
pratique. Et du coup, l'autre
C'est pas
question qui va
pratique, j'irai pas
avec,
jusque-là.
c'est est-ce qu'il y a des conditions particulières pour faire un crédit dans le cas où je veux acheter une Switch 2 secondaire?
Attendez. Je voudrais juste savoir une chose. Si demain j'ai changé d'avis, est-ce que l'offre tient toujours? Voilà, on en est à peu près là. Donc voilà, mais en gros, ça compense un des trucs que je trouvais un petit peu problématique sur Switch 1, qui est cette histoire de comptes principaux, comptes secondaires, console principale, console secondaire, qui était toujours un peu bordélique. Là, disons que ça simplifie, ça streamline un petit peu le process. Alors je dis pas que c'est simple. Le plus simple, ce serait quand même que tout soit accessible à tous les comptes sur tes deux consoles. Bon.
Du coup,
Mais
tu as juste besoin d'un petit ping sur une connexion Internet pour valider le transfert, c'est ça?
en gros, alors même pas, je crois qu'il suffit juste de mettre les consoles l'une à côté de l'autre. Enfin, moi je l'avais fait
Très
avec
bien.
les deux consoles l'une à côté de l'autre, si ça se trouve. Je suis seul face à Mecton. Bah oui, mais c'est comme ça, monsieur. Bref, eh bien, nous allons faire une première petite pause musicale. On va s'écouter un petit morceau de la bande-annonce de Xenoblade Chronicles Cross. Alors tous les je précise que tous les morceaux portent des noms à la con, genre ZB93-2, Mono X, Delta Y, enfin c'est très très pratique. Donc je vous donne le titre, mais vous inquiétez pas, je vais essayer de vous expliquer dans quelles circonstances il est joué aussi. Là, le titre s'appelle Mono X.
S'appelle Code Barre.
C'est impossible en plus. Mono X, c'est la musique de oh là là, il se passe des trucs épiques. Voilà. Donc ça c'est bien dans les cinématiques généralement, mais pas que. Quand tu découvres une nouvelle zone et tout ça. C'est composé par Hiroyuki Sawano. Ça dure un tout petit peu plus de 3 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour. Putain, c'est un tour très.
Cavernu.
Oui, il est calme. Donc, retour à Mira, Xenoblade Chronicles X. On a déjà fait une émission dessus il y a en 2015. Il y a 10 piges.
10 ans.
Et
Bordel.
ouais, putain, ça nous rajeunit pas. Nous étions jeunes et fringants à cette époque.
C'est dans la tête, c'est dans la tête.
Ouais,
Et les genoux.
les épaules, ce qui me concerne, mais bon, chacun sa merde, j'ai envie de te dire. C'est le jeu qu'on n'attendait plus sur Nintendo Switch. C'était un des derniers grands jeux exclusifs de la Wii U. Il y en a encore quelques-uns, mais finalement,
J'en compte deux, trois,
vas-y.
allez. Le
Super Mario
Wario,
Maker.
on s'en fout, A4, le Mario Maker, le Nintendo Land, ça c'est pour
Ah,
faire plaisir
Nintendo
à
Land, ouais.
Méduse,
C'est vrai.
et le Paper Mario.
Il y a un Paper Mario, moi je pensais aussi à les deux remakes de Zelda, Twilight Princess et Wind
Exact.
Waker, qui effectivement restent quand même. Ça, je m'attendais à ce que ça ressorte sur Switch, tu vois aussi. On a eu
Oui, en
Skyward Sword, je me suis
compile,
dit,
oui.
ouais, en compile, tu vois, genre, ils avaient fait le Super Mario 3D All-Stars, ils auraient très bien pu faire un Super Zelda 3D All-Stars.
L'année d'après pour l'anniversaire, tout à fait.
Pourquoi pas, mais c'est vrai que ça ne s'est pas fait. Star Fox Zero,
Ah ouais. Bien joué, Pab.
Ok, Star Fox Zero. Donc il y a encore quelques jeux Devolstered. Voilà. Mais c'est un petit peu comme dire que Disaster Day of Crisis est une des dernières grandes exclusivités de la Wii, hein. C'est pas dire grand-chose.
grand jeu de Monolith.
Un jour, il faudra qu'on fasse un vrai truc sur ce jeu. Il faudra vraiment qu'on fasse un sujet sur ce jeu. Je suis très sérieux.
J'avais bien aimé, moi.
Ouais, mais c'est fou qu'il rejoue, quoi. C'est vraiment...
Ah, mais c'est nanar à balle. Mais qu'est-ce que c'était drôle.
Okay, bon, si tu le prends comme ça... Bref, donc maintenant, la plus grosse nouveauté, c'est surtout que c'est disponible en mode portable. Ça a l'air de rien, mais c'est vrai que sur Wii U, bah, t'étais quand même... Alors, tu pouvais, je crois, tout jouer sur le gamepad.
Il y avait un swap, oui, il devait y avoir un swap, oui.
C'était pas très très confortable de mémoire. J'ai pas revérifié de ça, tiens, je suis un peu con, j'ai revérifié plein de trucs, du coup, pour... En rejoignant Xenoblade Chronicles X sur Switch, j'ai relancé la version Wii U pour justement vérifier 2-3 bricoles. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc, on a un jeu qui est toujours aussi impressionnant.
Oui.
Qui est un petit peu plus joli.
C'est un peu lissé, des textures retapées. La DA, notamment les visages, c'est harmonisé par rapport aux autres Xeno.
Ouais. Oui, parce que t'as les fameux grands yeux avec la pupille un peu mécanique, tout ça. Enfin, les marquages sur la pupille. Ça, c'est très harmonisé par rapport à Xenoblade 2, notamment.
Ouais.
Et ils avaient toujours des tronches un tout petit peu bizarres, je trouve, sur la version Wii U. Ils avaient quand même une certaine tendance à avoir des tronches très...
plastique.
Ouais, voilà. Alors que là, c'est un petit peu mieux. Alors, ça reste très stylisé. Il n'y a pas de quoi... C'est pas une modification majeure de la DA, mais c'est vraiment juste une espèce d'ajustement général, finalement. C'est presque de l'ajustement de colorimétrie, finalement. C'est de dire, on va aller retaper le monde pour que la colorimétrie soit un petit peu moins jaune, notamment. Les couleurs ont tendance à être un peu plus justes. C'est pareil pour les visages, c'est pareil pour les peaux qui ont tendance à être un peu moins artificielles, même si la peau artificielle, ça se justifiait scénaristiquement.
Oui, c'est plutôt cool. Ouais.
Voilà, il y a plein de trucs qui se justifient. Je crois qu'on en a déjà parlé il y a 10 ans d'ailleurs. Hein. Donc, voilà, les temps de chargement sont extrêmement réduits.
Oui, bah globalement, il y en a pas, sauf si vous vous téléportez.
Et quand on se téléporte, c'est genre 2 secondes, 3 secondes, alors que sur la version Wii U, c'est plus de l'ordre de 10-15 secondes facile.
Ah, c'était tant que ça.
Ah okay. Oui, c'est. Alors, encore une fois, j'en ai refait un tout petit bout, juste pour savoir où est-ce que je m'étais arrêté, tu vois.
Okay.
Je savais que j'étais aux alentours du chapitre 4 ou 5 sur Wii U, parce que j'ai jamais fini le jeu, en fait. C'est pas qu'il m'est tombé des mains, c'est que j'avais plein d'autres choses à faire.
Ah, donc t'avais pas eu le gros robot?
J'avais pas encore eu le gros robot. C'est pour ça que j'étais très surpris qu'il ne volasse point. quand je l'usse. J'ai été assez surpris, mais... donc oui, les temps de chargement sont longs, en fait. Quand t'es sur la carte et que tu dis « Je veux me téléporter à tel endroit », bah, sur Wii U, ça... Mm. Ça tourne. Alors, 10 secondes, c'est peut-être un peu... Je pense qu'en moyenne, ça doit faire à peu près 10 secondes. Alors que là, c'est vraiment... Okay. Pas instantané, mais...
Ouais, c'est 2-3 secondes, quoi.
C'est ça.
Non, on rechigne pas trop à faire des allers-retours sur des quêtes à la con, quoi.
C'est ça. Et puis même, des fois, t'en profites, hein, parce que finalement, il y a des quêtes sur lesquelles on te force à aller d'un bout à l'autre du monde, machin. Bon, bah là, tu peux y aller. C'est pas vraiment un problème. Dès que t'as un point d'ancrage, t'y vas, quoi.
Ouais, ouais.
Le troisième petit truc du coup, c'est la carte. Je la trouve un peu moins pratique à utiliser. Alors, il y a eu un gros effort de fait sur toute la partie ergonomie.
Oui, bah, tout le menuing est vachement plus simple.
Ouais, il y a vraiment eu un énorme effort sur le sujet, même si ça reste extrêmement touffu. Alors, c'est vrai que c'est le même reproche que sur la version Wii U, hein, mais les contrôles sont, je trouve, un peu. J'ai envie de dire catastrophique, mais c'est peut-être un peu fort.
Oh, à ce moment-là, qu'est-ce qui te gratte ?
Ah, le fait que tu maintiennes R et puis X pour faire un truc, L et puis bas pour faire un autre truc. Enfin, tu vois, t'as quand même. Je trouve que c'est.
Pour les petits raccourcis.
Beaucoup de raccourcis disponibles et ça, c'est cool. Tout ne passe pas par les menus. Mais putain, pour les connaître par cœur, c'est compliqué. Hein. Alors, il y a plein d'indications à l'écran. T'as un menu dans lequel t'as toutes les commandes, mais t'as genre 6 pages de commandes.
Oui, en fonction du « je suis à pied, je suis comme ça, je suis truc ».
Ça me rappelle, tu sais, les jeux sur PC des années 80-90, où effectivement, ou même sur console, où t'avais souvent un mode combat, un mode exploration,
voiture,
un mode
machin. Ouais.
C'est toujours, je trouve, confus et pas toujours très 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 agréable, ce genre de choses-là, mais bref. Moi, ce que je trouve surtout, c'est que la carte est beaucoup moins pratique à utiliser, parce que c'est vrai qu'avant, tu l'avais plus ou moins en permanence sur le gamepad, avec notamment ces trois couches.
Ouais.
Est-ce que t'as la...
Alors, c'est toujours le cas, et on se demandait comment ils vont faire. Bon, bah, il y a un bouton de raccourci Y, ça l'affiche directement, sinon elle est via un menu. Les trois couches, c'est des gâchettes pour changer de couche.
Ouais.
Et oui, c'était plus rapide au tactile de poser des sondes comme ça. Bon, au stick, ça se fait.
Ça se fait, ouais. C'est vrai que t'as... En fait, c'est surtout le fait que tu l'avais plus ou moins tout le temps sous le nez, donc... C'est vrai que tu passes quand même énormément de temps sur la carte.
Bah, vérifier ouais, des points d'objectif. Alors, le Frontier Nav, j'avoue qu'une fois qu'on a une implantation de sonde qui va bien, je suis pas le genre de joueur qui va changer toutes les 15 secondes pour optimiser le truc. Donc, ça me va. Les points d'objectif, ouais, j'aime bien vérifier de temps en temps, même si, alors je sais plus si c'était le cas sur la version Wii U, mais on peut avoir plusieurs trackers de missions. On peut traquer une mission principale, une mission secondaire, une mission à
Oui.
con là, et une mission genre le truc d'exploration où t'as un petit objectif
C'est
par
ça.
hexagone.
Les vertes, les jaunes, les rouges. Donc tu peux avoir une verte, une jaune, une rouge. Donc rouge, c'est l'histoire principale. Orange, c'est les missions d'entente. Et vert, c'est les missions à la
À
con.
con, ouais.
Et
À
en
la
fait,
con,
oui,
même si elles
tu peux en
sont, elles
avoir
sont
trois en même
sympas.
temps. Mais par contre, tu peux en avoir que. Alors, je crois que c'est une par catégorie. Donc, tu peux pas
C'est
faire
ça.
deux missions d'entente en même temps. Tu peux pas faire deux missions principales en même temps. Ça a l'air un peu logique.
Ça, tu peux pas. Des missions à con, tu peux en empiler 20, mais au niveau du tracker, c'est une activée en même temps.
C'est ça.
Et après, voilà, sur la carte, il y a plein de petits points d'exclamation qui vont s'afficher et rien ne vous empêche de finir une autre mission par accident, quoi.
Tout à fait, oui, d'ailleurs, ce système-là marche toujours assez bien. Je sais que Antix nous avait dit que c'était un peu mission secondaire le jeu, parce que c'est vrai que le jeu t'encourage énormément à explorer, enfin t'encourage même, t'oblige à explorer, puisque pour aller ouvrir le chapitre X, t'as souvent un pourcentage d'exploration de telle zone qui est obligatoire,
C'est ça.
l'exploration étant effectivement récupérer les points de sondage. Aller explorer des épaves de vaisseau, récupérer des machins, enfin voilà, c'est
Ou
souvent
justement faire des
des
petites
choses comme ça.
missions, et pour le coup, ces missions à la con, elles sont là pour t'encourager. Tiens, t'es pas encore allé dans tel coin, ça t'amène à y aller tranquillou. Alors autant les missions de collecte sont chiantes, autant les missions un minimum scénarisées, il y a des petits trucs marrants qui peuvent se passer dedans, quoi.
C'est ça. Après, il y a, enfin, de toute façon, ça c'est là-dessus, le jeu n'a pas évolué. Dans le sens où c'est globalement c'est le même cœur du jeu,
Ah,
il n'y a pas de
c'est tout
mission
pareil.
inédite, il n'y a pas de machin, tout ça c'est absolument pareil. C'est vraiment effectivement, encore une fois, niveau ergonomie où bon, voilà, en fait ils se sont pas trop posé la question finalement, ils ont fait avec ce qu'ils avaient, c'est-à-dire bon, y a une manette, il n'y a plus un écran tactile, donc faut faire avec. Même si tu
Cool.
peux jouer au tactile, je crois, quand t'es en mode portable, j'ai pas essayé,
J'ai
c'est un peu
encore
con.
pas essayé. Pour moi, c'est tellement un jeu à panorama qui se prête à
Ouais, c'est clair.
baver sur un grand écran que j'ai encore pas essayé en mode portable.
Alors moi j'ai essayé en mode portable, mais j'ai pas pensé à faire ça. Je suis un peu
Ouais.
con, j'aurais dû essayer. Bref. Donc ouais, ça marche pas trop mal en vrai. C'est pas si difficile que ça à adapter. Ce qui m'amène à deux réflexions. La première, c'est est-ce que finalement la Wii U était une si bonne idée que ça?
Ouais.
Parce qu'en vrai, ça fonctionne bien sans. Alors oui, c'est un petit peu moins pratique sur 2-3 bricoles, oui, c'est un peu moins rapide sur 2-3 bricoles, mais en vrai, bah,
Elle a
ça
pas eu de
marche quand
chance,
même,
hein.
quoi. Donc, est-ce que ça justifiait ça? Et la deuxième réflexion, maintenant que nous avons 10 ans de recul sur ce jeu, est-ce que c'est vraiment un proto Breath of the Wild?
Alors,
Ha-ha!
j'en profite tant que je l'ai dans la tête pour pas oublier. Dans les deux améliorations que je trouve hyper cool, c'est si vous voulez modifier votre équipe, pas obligé de retourner à la ville principale, vous pouvez le faire depuis n'importe où. Et changer l'heure peut être fait depuis n'importe où et pas depuis un camp.
Ah, oui, c'est vrai que ça c'était pas possible avant. Il fallait obligatoirement passer par un camp, alors que maintenant il y a juste un menu où on peut changer l'heure.
Voilà.
Oui, très bien. Oui, t'as bien fait de le glisser parce qu'effectivement c'est des petites améliorations de qualité de
Ça,
vie
c'est
auxquelles j'avais pas
hyper
pensé.
pratique. Ouais. Non, est-ce que c'est un proto Breath of the Wild? Dans la mesure où une centaine de devs a été envoyée à la rescousse de l'équipe de développement de Zelda pour faire Breath of the Wild ce qu'il est aujourd'hui, je dirais oui. Tu peux pas envoyer un mec aider quelque part en disant il a l'expérience, il va vous aider, sans pouvoir dire quelque part si Xenocross n'avait pas existé, Breath of the Wild serait pas ce qu'il est aujourd'hui.
Mais d'un point de vue de déroulement, c'est
D'un point de vue déroulement.
pas du tout, du tout. D'un point de vue world building, Je suis assez d'accord, il y a des grosses similitudes, notamment le design en pyramide.
Oui.
T'as souvent une colline qui va te bloquer la vue,
Qui va
puis une fois que tu
cacher
l'as
quelque
passée,
chose.
t'as encore un autre truc. T'as les points de repère au loin, c'est-à-dire, alors surtout dans, alors Xenoblade, là-dessus, le jeu est quand même assez. Il y a quelques, tu disais c'est un jeu à panorama, mais c'est exactement ça. Il y a quelques panoramas assez extraordinaires où effectivement tu tournes le coin d'une montagne et tout d'un coup tu te retrouves avec un machin gigantesque où il y a des racines partout qui montent jusqu'au ciel. Enfin, t'as des vues assez ouf.
Pour le vendre à un pote, je lui disais, est-ce que tu te rappelles ce que tu as ressenti la première fois que tu as vu Pandora dans Avatar? Prends ce sentiment et tu l'étires sur 100 heures.
C'est à peu près ça. Hein. C'est vrai qu'il y a deux, trois passages assez scotchants. Hein. Ou même de loin, enfin surtout là, alors sur la version Switch, sur la version Wii U, t'avais quand même un petit peu de floutasse les bananas au loin. Hein, là, sur la
Ouais,
version Switch, le truc est quand même assez clean. Hein.
il y en avait un peu, et puis ouais, les systèmes. Ça me ferait dire aussi que c'est un brouillon, c'est les systèmes. J'entends la faune qui a un comportement qui semble cohérent, genre les gros dinos qui boivent leur flotte, les prédateurs qui courent après. Alors ça, après, c'est peut-être une alu, hein, c'est peut-être une histoire que je me suis racontée aussi. Mais il me semble avoir vu certaines bestioles courir après d'autres.
Non, non, il y en a, il y en a, il y en a. Alors après, est-ce que tu as vraiment. T'as ça dans Breath of the Wild? T'as de la grosse interaction entre la faune.
J'ai un doute du coup. J'ai un doute et je suis bloqué sur une connerie. C'est balancer une poule sur un mob, ça défonce le mob. Et j'arrive plus à penser à autre chose.
Par contre, ça marche pas dans Xenoblade.
On a les dégâts environnementaux.
Oui, c'est vrai. Ça, par contre, effectivement, c'est vrai. Mais tu vois, y a pas tout le côté. Moteur physique, moteur chimique par exemple, qui est quand
Non.
même une énorme composante de Breath of the Wild, mine de rien. Je suis
Oui,
d'accord
oui.
sur le fait que le world building, on est dedans.
Voilà, sur le côté open world complètement taré où tu vois quelque chose, tu peux y aller. Ou tu pourras y aller.
Voilà, tu pourras y aller parce que, alors, voilà, quand t'es à pied, t'es quand même très limité. Tu vas pas vite et tout ça. Quand t'as un scale, tu vas plus vite, tu peux sauter un peu plus haut, donc tu peux atteindre d'autres trucs, mais tu peux pas encore voler. C'est en trois étapes la découverte.
C'est
Hein.
ça.
Voilà,
Ce
ça
qu'on disait,
aussi.
il y a deux changements d'échelle dans le jeu. Et à chaque fois, c'est assez marquant. Enfin, surtout le deuxième. Quand la première fois qu'on s'envole, c'est vraiment le wow effect. Ok, à partir de maintenant, tous les endroits, je me disais, mais putain, comment je peux y aller? Je peux y aller.
Ouais. Et c'est vrai que ça là-dessus, dans Breath of the Wild, alors tu l'as peut-être un peu plus dans Tears of the Kingdom, cette sensation de ouais, ok, mais en fait c'est assez atteignable. Parce que dans Breath of the Wild, t'avais, si je le vois, je sais que je peux y aller.
Je peux y aller. Si je peux pas y aller tout de suite, c'est ma barre d'endurance n'est pas assez
C'est
développée.
ça. Alors que dans Tears of the Kingdom, finalement, avec tout le côté je peux m'envoler, je peux monter au ciel finalement assez facilement et redescendre à partir de là, et puis construire des véhicules qui me permettent d'aller éventuellement un peu plus loin. Je trouve que le jeu est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus vite.
Ouais.
Donc voilà. Donc c'est vrai que on avait dit Proto Zelda, bah en fait.
Mais sans dire de conneries, il me semble que sur le petit. Alors c'était quoi? C'était une conférence de dev, une espèce de masterclass qui avait été fait à je sais plus quelle
À la
occasion.
GDC,
À la
Sumona
GDC,
Kawakami.
c'était ça. Où il parlait justement du design en pyramide, ou avec des pyramides plus ou moins grosses pour te masquer des éléments, t'encourager à aller voir ce qu'il y a derrière et compagnie. Ça, il me semble que c'est Monolith qui leur a soufflé de construire leur carte comme ça.
Bah, je serais pas très étonné parce qu'effectivement, il y a énormément d'endroits sur Mira qui sont construits comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que, à contrario, toutes les zones de jeu qui ne sont pas construites de cette manière-là, du coup, contrastent énormément avec le jeu. Je pense à Noctilium, par exemple, le truc dans la forêt, là.
La forêt, elle est
Ouais.
très verticale pour le
Elle
coup.
est
Elle est très.
extrêmement verticale, mais elle n'est pas tellement pyramidale. Tu vois, tu as assez peu
Ouais.
de. Enfin, t'en as, mais à une échelle bien plus petite. Tu as souvent un champignon qui va te bloquer la vue et tout ça. Mais globalement, ça ressemble vraiment à quelque chose, à une forêt, à quelque chose de très, très, très organique. Par contre, le désert, je ne sais plus comment s'appelle la zone, Oblivia, un truc comme
Et
ça,
Oblivia, ouais.
là, c'est construit vraiment en pyramide. Tu as vraiment le gros rocher qui t'empêche de voir le gros rocher qui est derrière, qui t'empêche de voir le gros pic qui est derrière, etc., etc. Mais du coup, je trouve que
La
Noctilium,
forêt.
la forêt, ça contraste beaucoup. C'est-à-dire, dès que tu ne construis pas un continent comme ça, du coup, il est d'autant plus marquant qu'il n'est pas construit comme ça.
C'est un autre délire. Pour le coup, cette zone là, pour moi, c'est putain, jusqu'où je peux monter, jusqu'où je peux descendre, quoi.
Oui, c'est vrai qu'en plus, parce que le pire, c'est que quand on débarque, on se rend compte qu'on débarque à mi-hauteur et qu'effectivement, il y a au moins deux ou trois étages au-dessus, deux ou trois étages en dessous. Et donc, pour faire plaisir à Antix, oui, c'est construit comme un niveau de Sonic le Hérisson, c'est bon, voilà, c'est bon.
Quoi?
Il y a une route haute, il y a une route basse, c'est bon. Bordel de merde. On peut pas s'en empêcher, hein. Il m'énerve. Bref, il y a un dernier petit truc, c'est le chapitre inédit. Alors malheureusement, nous n'avons pas Antix, mais nous avons son avis sur le sujet. Je vous le pitch, le chapitre
Alors,
inédit.
je place ma connerie juste avant.
Oui.
Si vous vous rappelez le jeu de base, on va faire gaffe à pas trop trop spoiler quand même, mais le jeu de base se finissait sur deux cliffhangers qui arrivaient pendant le générique de fin. On m'a dit que un de ces cliffhangers est expédié en 15 secondes.
Et est-ce
Et
que le
je trouve
DLC
ça
résout le
très drôle.
deuxième, en fait? C'est
Et
surtout
je
ça.
trouve ça très drôle. Et j'espère que le DLC résout le deuxième, vu ce que Antix nous en dit. Et je te laisse la main.
Alors, je vous fais le pitch général, hein. Globalement, il y a une nouvelle menace sur Mira. Je vous en dirai pas plus. Je crois que, de toute façon, c'était même sur l'eShop, je crois qu'ils le disent, attention, nouvelle Mirage, menace sur Mira, il y a une nouvelle race qui arrive et qui veut tout détruire, tout ça, tout ça. Il y a des nouveaux personnages, il y a de nouveaux ennemis, donc ça c'est quand même intéressant. Voilà, c'est une suite directe de l'aventure principale, ce n'est pas un scénario à part entière. Donc c'est vraiment, effectivement, donc la résolution du premier cliffhanger en 15 secondes, et on suppose la résolution du second cliffhanger. Moi je trouve ça très bien de ce point de vue-là, puisqu'il n'y aura très probablement pas de Xenoblade Chronicles X2, ce serait quand
Ouais,
même un
bah
peu...
du coup non, ou alors complètement autre chose, mais
Voilà.
au moins voilà, ça répond aux questions. Juste petit point aussi, autant sur le Xeno 1, 2 pour Torna et le 3, les chapitres additionnels qui sont sortis, donc soit en même temps, soit en DLC, étaient accessibles dès le menu de départ. Là, pour le coup, vous êtes obligé de vous fader le jeu pour débloquer le chapitre bonus.
Ah, intéressant, je ne savais pas. C'est vrai que je ne l'ai pas vu sur le menu principal, mais j'ai pas fait plus gaffe que ça. Voilà. Bref, donc l'avis d'Antix, je vous le donne, je vous le délivre puisqu'il n'est pas là, et on fait un gros bisou à Zergy qui vient juste de nous rejoindre, c'est très gentil de ta part. Donc il a dit, voilà, Antix nous dit, c'est un gros contenu scénarisé avec pas mal de cinématiques, l'épilogue plus des personnages en plus des blocages dans le jeu de base, donc ça veut dire que ça rajoute des persos qu'on peut rajouter dans son équipe, je suppose.
Oui, il me semble avoir croisé des têtes que je connaissais pas. Donc, ouais, ok.
Voilà, il y a aussi un gros donjon qu'on peut faire de manière très libre avec des missions à faire pour se simplifier le boss final. Alors, je
Bon,
suppose le boss final du DLC.
ils ont regardé côté Persona, du coup.
Peut-être. Et lui, son truc, c'était de dire, bah, la conclusion, c'est un petit peu décevant, surtout qu'il y a 10 ans d'attente. C'est un peu tout ça pour ça. Alors après, voilà.
C'est le syndrome Star Wars, quoi. Quand t'attends pendant des années à t'imaginer ta propre histoire, tu peux forcément qu'être un petit peu déçu.
Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a peut-être aussi un peu du. Enfin. Finalement, est-ce qu'ils auraient pas dû avoir un DLC sur la version Wii U qui concluait proprement le scénario, quoi. Terminer sur deux cliffhangers, moi je trouve que c'est un peu pute, quoi. Surtout pour un jeu qui fait une centaine d'heures. Pas comme si tu pouvais pas mettre une heure ou deux pour expliquer le cliffhanger. C'est quand même...
Bah, 1 heure ou 2 dans un Xeno, c'est pas possible.
C'est 10 minimum, c'est pas
Ouais.
possible. Par tranche de 10 heures. Voilà, mais moi je trouve ça un petit peu dommage de terminer un jeu d'une centaine d'heures sur un cliffhanger. Enfin, alors après, sauf si c'est une fin ou plus une fin ouverte, parce qu'en fait on dit cliffhanger, mais est-ce que c'est juste une fin ouverte et qu'il n'y avait pas particulièrement de volonté d'avoir une suite? Parce que ça peut arriver aussi, et je trouve pas ça choquant.
C'est chaud d'en parler, mais ça appelait. Pendant
Ça appelait
longtemps,
une
on disait il va
suite.
y avoir un cross 2, quoi. Ouais.
Ouais. Bon, là, a priori, le Cross 2 s'est mal barré, ils ont bouclé le truc. Finalement, j'allais dire tant mieux. Bah voilà, bah écoutez, si vous n'avez pas eu l'occasion de faire Xenoblade Chronicles Cross sur Wii U et que vous avez bien aimé, bah, soit Xeno 2 que soit Xeno 3, on retrouve pas mal de mécaniques de l'un et de l'autre, même si c'est très différent.
Ouais, c'est très différent. C'est beaucoup moins guidé par le scénario, même si le scénario est intéressant, hein, y a pas, il est moins, il est plus haché, c'est plus, ce sera plus à vous d'aller découvrir les trucs. Et je pense que Antix sera d'accord là-dessus. Il y a une ambiance SF qui est très particulière sur cet épisode, et on en parlait avec Méduse. Si vous aimez Battlestar Galactica, vous allez adorer.
Oui, alors il y a effectivement, faut kiffer l'ambiance SF, et c'est un des gros délires du jeu, hein, on va se le dire. C'est-à-dire le fait de se balader avec des persos qui ont une épée, une mitraillette, une double lame, un machin, enfin toutes les armes font aussi très très science-fiction, et ça je trouve que ça marche bien. Et pareil, je crois que c'est toi qui disais ça, Mecton, c'est on dirait un MMORPG mais que tu fais tout seul.
Oui, bah ça c'est un peu la marque de fabrique de la série pour le coup, mais.
Je trouve que c'est beaucoup plus marqué dans cet épisode X que dans le 2 par exemple.
Et celui-là, c'est encore plus marqué par le fait donc qu'il y a cet éditeur d'avatar, comme tu disais, qui est justifié par le scénario. Et c'est une critique qui est faite parfois sur cet épisode, c'est que autant sur le 1, 2, 3, c'est vraiment scénario épique, personnage principal, psychologie développée, blabla tout ça. Là, les persos sont plus fonctions. Le nôtre, c'est un avatar custom muet. Alors même si voilà, il y a des choix de dialogue à faire
Tu peux répondre quand même, ouais.
voilà, pour faire comme s'il parlait, mais il y a un peu plus le sentiment d'être spectateur d'une histoire qui est conduite par les autres.
C'est vrai que ça fait un peu ça. C'est vrai que ça fait un peu ça. Mais du coup, c'est pas. Voilà, ça, il a une petite saveur un peu particulière, mais je trouve que c'est pas du tout désagréable. Une fois qu'on a réussi à maîtriser les quelques mécaniques de base, notamment les combats, c'est pas si simple que ça. Il y a pas mal de couches dans les combats, je trouve que ça se suit assez bien. D'ailleurs, à ce sujet, je vous recommande un article d'un certain Mecton sur le fait d'optimiser ses points de tension.
Non, 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 moi j'avais parlé du 2, c'est
Ah
Méduse
merde,
qui a fait
c'est
le.
Méduse sur les. Ah pardon, je
C'est
dis
Méduse
alors.
le cross, ouais.
Mais qui est toujours un article valable, hein. Il a même été
Oui.
vérifié pour être sûr qu'il n'y avait pas de changement. Il y a deux ou trois changements, il a dit qu'il ferait éventuellement la mise à jour. Donc on compte sur lui, hein. Je sais pas pour le balancer sous le bus, mais
Ah mais
voilà.
oui. Le gros truc qui a été rajouté, c'est la barre bonus pour reset les temps d'attente des arts.
Ah bah
En
oui.
gros, tous les combats sont vachement plus courts.
À relativiser, hein, parce que dis donc, il y a des fois.
Il va pas t'attaquer à un sac à PV qui est 15 niveaux plus haut que toi aussi.
Ouais, non, mais c'est ça, mais moi je m'attaque à des trucs qui sont 2-3 niveaux plus que moi, des fois j'en chie, hein. C'est quand même pas si évident que ça. Bref. On va faire une autre petite pause musicale en écoutant de nouveau un petit morceau de la bande originale de Xenoblade Chronicles X, qui est donc toujours composé par Hiroyuki Sawano, qui a priori est le compositeur, tu m'as dit, de l'Attaque des
L'attaque des
Titans.
Titans, ouais.
Donc ça fait quand même plaisir. Et le morceau, comme je vous l'ai dit, a un nom invitable, il s'appelle Z37 Battle.
Oui, même chose, la BO c'est la même que dans celui d'origine,
Oui.
n'écoutez surtout pas les paroles des chansons.
Effectivement.
Mais sans déconner quoi, le thème de combat d'Eskel avec le mec qui fait 1-2 1-2, est-ce que ce truc marche? Je me sens un peu seul, il me faut un plus gros flingue. Une fois que tu l'as entendu, ah bah merde, je viens de vous niquer le truc aussi. Ah merde.
Ah, c'est con, hein. Bref, bon, en tout cas, voilà, un morceau épique qui dure un tout petit peu plus de 3 minutes, et on se retrouve tout de suite après.
Commandé par Olivier Ming, putain! Qu'est-ce qui pourrait mal se passer?
Et nous voilà de retour.
Et tout!
J'essaie de meubler un petit peu le tour. Eh bien, moment grave, débat sur la fin de vie. Non,
Les
pas comme
vieux,
ça.
faudrait les buter à la naissance.
Putain. Je savais qu'il allait faire une connerie comme ça. Bref, on parle de la fin de vie des consoles Nintendo, mais pas que. C'est vrai que l'impression que ça me donne avec quand je vois le calendrier de la Switch. Entre maintenant et on va dire le mois de septembre-octobre. Alors je sais que le mois de mai n'est pas un mois très très propice aux sorties de jeux vidéo. Généralement, c'est plutôt les mois calmes de l'année. Mai, juin,
Oui.
juillet,
Bah
août.
normalement on attend le 3 et ça sort après quoi.
Ouais, et puis même, t'es pas. Voilà, juin, juillet, août, c'est pas des mois très très propices à ça. C'est pour ça que je suis d'ailleurs assez étonné que la Switch 2 sorte au mois de juin. Toujours.
Oui, bah même oui.
Au mois de mars, ça a du sens, tu vois. La Switch 1 sortie au mois de mars, bon, t'es pas dans la période de Noël, t'es suffisamment après la période de Noël pour que les gens aient un peu de thunes à dépenser.
Ça, t'as le temps de faire le stock pour le Noël qui arrive.
C'est ça, donc ça avait du
Bon, là,
sens
ils
faire au
auront
mois
le
de
temps
juin.
aussi.
Je trouve que ça a un petit peu moins de sens. Mais voilà, ce qui est étonnant, c'est que là, le calendrier de la Switch, c'est quand même très 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 mort. Au mois de mai l'année dernière, on avait eu quand même un Paper Mario, alors certes un remake, mais un Paper Mario, et je sais plus, j'avais compté 3-4 autres assez grosses sorties sur le mois de mai-juin. Là,
Que dalle.
y a rien, hein. Vraiment, c'est le désert. C'est le désert pas agréable. Et mois de juin, il n'y avait pas grand-chose non plus. Alors, il y a quelques jeux tiers, je pense à Legacy of Kain qui va sortir en boîte, mais qui en fait est déjà disponible sur l'eShop. Donc, finalement. Ouais, il y a The Thing, encore une fois, il y a 2-3 bricoles.
Même chose, The Thing, il est déjà sorti. C'est la version
Tout à fait,
physique
c'est
qui
juste
sort
la
au mois de
version
juin.
physique dont on parle. Mais quand tu regardes le calendrier, putain, même au mois de septembre, la grosse sortie de cet été sur Switch, ça va être Tony Hawk Pro Skater 3 plus 4.
Ouais, c'est fou.
C'est compliqué quand même.
Sans dénigrer le jeu, c'est pas. Voilà.
C'est pas à la hauteur des enjeux, quoi, on va se dire ça comme ça. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que Nintendo a toujours très très mal géré la fin de vie de ses consoles, ou est-ce que c'est un cas particulier depuis, voyons, la N64? Ce qui fait quand même un gros cas particulier. Parce que, en fait, quand tu regardes le cycle de vie d'une machine, basiquement, à sa sortie, il y a souvent quelques softs disponibles, mais c'est vrai que c'est souvent assez peu, finalement. Mais c'est pas forcément très gênant, puisque tu viens de dépenser pas mal de thunes pour acheter la console, donc t'as un ou deux jeux pour aller avec, c'est bien. Je veux dire, c'est normal que ça grimpe au fur et à mesure, et que tu puisses t'offrir des jeux au fur et à mesure, donc ça me choque pas. Il y a un moment où il y a une espèce de pic, et où vraiment t'as énormément de jeux qui sortent, il y a une année où c'est le maximum, et ensuite ça décroît, et donc la question c'était, est-ce que chez Nintendo ça décroît très très vite, ou ça décroît très très lentement, et comment ça se passe chez la concurrence, par exemple. Et donc j'ai fait des grosses stats, avec des gros fichiers Excel, avec des gros graphiques, ça va faire très très plaisir à Oscar, pour essayer de voir si Nintendo avait toujours très mal géré la fin de vie de ses consoles, ou si c'était en fait juste une espèce de hasard, ou si c'est que les consoles qui n'ont pas marché, etc. etc. C'est-à-dire, est-ce que finalement les concurrents, les Sony, les Microsoft, gèrent à peu près aussi mal? Voilà. Et l'idée c'était ça, c'était de se dire, est-ce que c'est Nintendo qui gère très très mal? Ou est-ce que, non, en fait, Nintendo gère très très bien, les autres gèrent très très bien. En fait, c'est tous les constructeurs finissent par, même s'ils disent qu'ils soutiendront encore leurs vieilles consoles, leur PS2, leur PS3, pendant encore plusieurs mois, en fait, non, c'est pas vrai. La porte est ouverte aux tiers qui veulent éventuellement sortir des jeux, mais c'est à peu près tout. Voilà, objectif de la manœuvre. Donc je suis remonté très très loin, puisque je suis remonté jusqu'à la NES. Alors j'ai pas fait les stats pour les consoles portables, mais j'ai quand même récupéré quelques infos.
Ah, on parlera pas du Virtual Boy alors, ok.
Non, mais on parlera de Game Boy par contre, parce qu'il y a un truc intéressant sur Game Boy.
C'est clair.
Donc la NES a été supportée, donc a eu son pic de nombre de jeux en 1990, avec.
Donc la NES Jap, hein, du coup.
Non, non, la NES tout court.
Ok.
Donc NES plus Famicom, hein, par contre, c'est les deux.
Ok.
Donc le pic des jeux, c'est 89-90, avec plus de 200 titres juste sur l'année 1990.
What?
C'est quand même pas mal, hein. Pour de la
Ouais.
NES, je trouve ça quand même assez ouf, hein. Alors après, je vais te faire halluciner sur certains chiffres peut-être, mais voilà. Et ensuite, en fait, ça décroît tranquillement, mais ça décroît vraiment très lentement. C'est-à-dire que les derniers titres sortis même par Nintendo sur NES, c'est jusqu'en 1994. Sachant que la Super Nintendo est sortie en 1990 au Japon, 1992 en Europe, 1991 aux États-Unis. Donc ça veut dire que 1994, t'étais 2 ans largement.
Après. Ouais.
Après la sortie de la nouvelle console. Et ça a décru vraiment très très lentement, puisque même en 1993, t'avais toujours plus d'une centaine de jeux qui sortaient sur NES sur l'année. Donc c'est pas rien, quoi. T'imagines, console qui, je rappelle, est sortie aux États-Unis en 84-85. Hein.
Tu as une idée du type de jeu ou c'est genre du Just Dance, tu vois, qui sort encore sur
Non,
GameCube ou...
c'est encore des jeux plutôt corrects. Hein. Je rappelle qu'en 1994, encore une fois, putain, 1994, Nintendo sort, alors en Europe certes, mais il y a Wario's Wood, qui est le tout dernier jeu édité par Nintendo
Ok.
sur NES, et il y avait Kirby's Adventure, qui est sorti extrêmement tard en Europe.
Yes.
Et je crois que
Ah
c'est.
bah oui, le chat avait raison du coup, ouais.
Le chat avait raison.
Kirby.
Kirby, ouais. Pareil, on a une petite curiosité aussi que je trouvais très très amusante. Castlevania 3 sur NES est sorti en 1993 en France, alors que Super Castlevania 4 était sorti en 1992.
Ça, c'est ouf.
Voilà, non mais Pour vous dire que c'était une autre époque. Hein.
Ça peut expliquer aussi pourquoi il n'a pas très bien marché niveau vente, mais ok.
Ça peut aussi l'expliquer, c'est vrai que c'est compliqué, mais Kirby's Adventure, c'est un jeu qui a plutôt très bien marché, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'ai l'impression que Nintendo considérait que la NES, c'était plutôt sa machine d'entrée de gamme, en réalité.
Oui, ok.
J'ai l'impression qu'ils avaient vraiment considéré que la NES, c'était la machine d'entrée de gamme, et qu'ils allaient continuer à la supporter, parce que finalement, bah, ils en avaient vendu des cajots, et que le software coûtait pas très cher à fabriquer dessus, et... Bon ben voilà, on peut continuer, et que la Super NES était plus vue comme la machine de pointe. Voilà, c'est quand même plutôt comme ça que je le vois, même si c'est peut-être une interprétation de ma part. Si on passe sur Super NES, alors autant aux États-Unis et en Europe, le support s'est arrêté assez tard, mais voilà, en Europe, on a eu quand même eu des jeux qui sont sortis jusqu'en 1997. Donc la N64 était sortie depuis à peu près un an pour le reste de l'Europe. En France, nous ne l'avons eu qu'en 1997, donc on pouvait pas trop se plaindre. Mais je pense à... c'est quoi? C'est Secret of Evermore, je crois, qui est sorti en 96 ou 97, donc très très tard.
Ok.
Il y a Terranigma, il y a quelques gros jeux, en fait, qui sont quand même sortis assez tard dans la vie de la console.
Donc, je pense à Donkey Kong Country 3. Voilà, toutes les petites perles graphiques, ok.
Tous les jeux qui poussaient vraiment la console au bout. Mais le plus étonnant, c'est au Japon, où en fait les derniers jeux officiellement licenciés par Nintendo sur Super Nintendo sortiront en 1999. Et je pense notamment à Fire Emblem Thracias 776. C'est pas Antix qui me contredira là-dessus, un des jeux Fire Emblem qui l'avait toujours intrigué. Il est sorti en 1999. Au Japon.
Tain.
Bah ouais, tain.
Attends, je te prépare un Camoulox. Pour moi, le dernier jeu Super NES sorti, il date de 2017, c'est Star Fox 2.
C'est vrai. Il faut le dire, c'est vrai. Mais bref, on a eu des sorties assez tardives sur Super NES, j'ai l'impression que c'était un peu la même stratégie. C'est-à-dire genre... Alors, ça s'est arrêté un peu plus abruptement, on va dire. J'ai l'impression que Nintendo a joué... Comme la N64 a été très en retard... Nintendo a joué les prolongations. Je pense notamment à Mario RPG, qui est aussi un jeu très tardif. Il est sorti en 96. Donc, faut que vous imaginiez que la PlayStation était sortie en 95, la Saturn était sortie en 95, 94 aux États-Unis, au Japon, 95 aux États-Unis. Donc, ça veut dire que, enfin voilà, côté Sony et Sega, on avait déjà bien bien entamé la génération suivante, quoi. Et Nintendo était toujours là en mode non, mais pas de problème. Des jeux, on va t'en sortir. Pas de soucis, on en est encore sous le pied. Voilà, donc ça faisait vraiment... Donc j'ai l'impression, voilà, côté NES, ça ressemblait plus effectivement à... on supporte la console parce que c'est l'entrée de gamme. Côté Super NES, c'est... Bah, en fait, on est obligé de continuer à sortir du software parce que la N64 n'est pas encore prête.
N'est pas prête, et du coup, putain... Niveau gestion, un jeu, ça se sort pas en 3 mois, quoi. Donc ils ont dû se rendre compte que le truc allait être en retard suffisamment à l'avance pour lancer le développement de grosses cartouches.
Peut-être. C'est encore une fois, je trouve ça étonnant. En fait, que des jeux comme Fire Emblem se retrouvent à sortir en 98-99, je suis pas choqué, parce que c'est des jeux qui ont des cycles de vie très longs, donc finalement, une fois que c'est entamé, t'as intérêt à le finir. Le porter sur la N64, ça aurait peut-être pas eu beaucoup de sens, même si...
Oui.
Peut-être que, voilà, mais changer de support au milieu, ça me paraît très casse-gueule, surtout d'une Super NES à une N64, il n'y a quand même pas grand rapport entre les deux, donc même si la partie design du jeu est faite, la partie programmation, ça va être l'enfer.
Oui, tant pis, à l'époque, en plus, c'était à moitié en assembleur, donc ça n'arrêtait pas rien comme boulot.
Ouais, je pense qu'il y avait quand même du taf, donc je sais pas si c'était très très malin, donc je me dis, autant, tu vois, autant finir, finalement. Ouais. Surtout que potentiellement, t'avais, encore une fois, c'est une autre époque, hein, en 99, acheter un jeu Super NES 9, pourquoi pas? Au Japon, peut-être que ça avait du sens.
Je pense à jouer à Game Dev Story, c'est passionnant pour ce genre de sujet.
Oui, complètement. Alors là, je suis complètement d'accord. C'est bien le genre de truc assez, assez marrant à faire. Je pense au cas de la Game Boy qui était un peu rigolo. Parce qu'en fait, alors j'ai pas les chiffres exacts, c'est un peu dommage. Mais en gros, il y a eu un avant et un après Pokémon.
Oui.
Donc, on rappelle, hein, la Game Boy sort au Japon en 89, en France en 90, si je dis pas de bêtises, France-États-Unis 90. Et donc, Pokémon, le premier Pokémon, sort en 1998, donc presque 10 ans après la sortie de la machine. Et le truc là-dedans, c'est que le jeu est un tel phénomène qui relance les ventes de la machine, c'est-à-dire les gens rachètent des Game Boy, et ils relancent aussi les ventes de jeux, c'est-à-dire qu'ils commencent à ressortir des jeux. Donc c'est une des rares consoles que j'ai vues où tu vois le nombre de jeux diminuer au fur et à mesure des années, puis tout d'un coup, 1998, tu vois le truc remonter.
Elle ressuscite, quoi. Okay.
C'est ça.
98, et puis derrière, je crois que la Game Boy Color était déjà sortie. Hein.
C'est pas impossible. Hein. 98, je serais pas étonné que ce soit 98 ou 99 la Game Boy Color. Mais ça a vraiment relancé l'intérêt pour la machine. Parce que il me semble que j'avais lu quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, que Pokémon était un des derniers jeux prévus pour Game Boy, et en fait, il y en a quelques autres qui sont sortis après. Spécifiquement pour Game Boy, hein, pas forcément pour Game Boy Color. Donc voilà, c'est des trucs un peu étonnants comme ça qui se passent. Là où on va commencer à se fâcher, et c'est là où ça devient un peu plus intéressant, c'est sur N64. Est-ce que tu te rappelles de la fin de vie de la N64, Mecton, puisque tu étais vivant à cette époque?
6 mois sans rien.
Oui. Un des derniers, c'était pas Paper Mario?
Je crois que c'est Paper Mario le dernier jeu qui est sorti. Alors non, ça doit être Mario Party 3, le dernier jeu qui est sorti en Europe en toute fin 2001. Sachant qu'on avait eu Majora's Mask, je crois, aussi fin 2001, si je ne dis pas de bêtises. Genre septembre ou octobre 2001 en Europe, faut que je vérifie, tiens, j'ai un petit doute.
Tiens, je vérifie, a priori, il y a un Tony Hawk qui est sorti en 2002.
Oui, mais seulement aux États-Unis, effectivement.
Seulement aux États-Unis.
Et c'est le seul jeu à être sorti en 2002.
Putain.
C'est le seul jeu à être sorti en 2002. Je dis de la merde, Majora's Mask, c'est 2000.
Alors, règle, les FIFA, ça compte pas. Hein.
Alors,
oui, les Just Dance non plus.
Alors attends, oui et non, il va falloir qu'on en discute, vous allez voir. Il y a des choses intéressantes à en dire. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Donc effectivement, la N64, la fin de vie de la machine a été très mal gérée, notamment en Europe. Alors faut dire aussi que la GameCube est sortie fin 2001 aux États-Unis et au Japon, alors qu'elle n'est sortie qu'en juin 2002 en France. Donc je ne serais pas très très étonné en réalité que Nintendo Europe se soit retrouvé un peu pris de court.
Entre deux eaux, ouais.
Entre deux eaux, et bah effectivement, si au Japon personne ne sort de software, tu t'aurais pu tenter un portage d'un jeu déjà existant, juste le traduire. Mais est-ce que ça valait vraiment le coup? Ben, j'en sais rien. Il n'y a pas grand-chose du Japon ou des États-Unis que nous n'avons pas eu en Europe sur N64. Il y a quelques inédits, mais il y en a finalement relativement peu. Sans compter le coût de fabrication des cartouches, sans compter les questions de logistique, enfin voilà, je pense que c'était pas simple. Je ne sais toujours pas, je ne m'explique toujours pas que Tony Hawk Pro Skater 3 soit sorti sur N64 et en 2002, c'est le seul jeu de l'année 2002 aux États-Unis sur N64, je comprends toujours pas pourquoi Activision a fait ça. Je vous le dis, j'ai pas capté. C'est très bizarre. Je vais pas vous mentir. Hein. Je ne comprends pas la logique qu'il y a derrière. Mais voilà, côté Nintendo 64, en tout cas, la fin a été très abrupte. Et effectivement, les deux dernières années de la machine, donc 2000 et 2001, il y a quand même nettement moins de jeux que dans son année faste, qui est 1999. La courbe descend extrêmement vite. Tu sens bien que il y a plus que Nintendo qui soutient sa machine. Alors eux, évidemment, ils sortent un million de sellers tous les mois quasiment, tous les mois ou tous les deux mois. C'est-à-dire que voilà, ils te sortent un Mario Party qui était un jeu de remplissage, boum, million seller, pas de problème. Mais à côté, je pense que les éditeurs tiers devaient quand même pas mal tirer la langue quand tu regardes les ventes. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça a vite, vite périclité.
Ouais, ils sont barrés ailleurs.
Je pense. Surtout qu'à côté de ça, la PlayStation, eh ben, c'est un marathon, puisque le dernier jeu sortira en 2005. 2005.
La PlayStation, la première du nom ?
La première du nom.
Wow.
Alors oui, c'est un FIFA, je le dis pour Zergy. C'est un FIFA, mais même en 2003, hein, donc t'es quand même presque 10 ans après la sortie de la machine, en 2003, il y avait toujours une centaine de jeux édités sur PlayStation.
Ah mais attends, oui, si tu comptes les trucs dans les bacs à soldes du Carrefour...
Non, je parle de nouveaux jeux qui sortent sur PlayStation.
Mais des bons jeux de merde, enfin des... Je sais pas, des Mon Petit Poney, des...
Non, pas que. Je crois que le dernier Harry Potter qui est sorti sur PlayStation, il a dû sortir en 2004, tu vois.
Putain.
Ben oui, mais t'as toujours 150 millions de machines disponibles. Donc,
oui, pourquoi cracher dessus, hein?
Alors tu fais chier tes développeurs. Hein. Ils emmerdent. Hein. Là, tu leur dis, il faut faire une version PlayStation, je pense que les mecs, ils tirent la langue. Mais le fait est... Bon. Alors la GBA, je sais pas si vous vous rappelez la fameuse grosse blague de Nintendo où la GBA devait cohabiter avec la DS pendant un certain temps.
Oui, ça ils l'ont fait plusieurs fois.
Coup de ça va cohabiter, oui. Ça a vachement cohabité. Hein. C'est-à-dire, dès que la DS est sortie, la GBA c'était fini. Hein. Il y a 2-3 jeux qui sont sortis vraiment en toute fin de vie de la GBA. mais c'est tout à fait quantité négligeable. Je crois qu'il y a un ou deux gros jeux qui sont sortis.
Genre Mother 3.
Oui, une connerie comme ça, tu vois. Mais seulement au Japon. Mais je pensais à des trucs comme ça, tu vois. Il y a genre un ou deux jeux un peu cultes qui sont en fait des jeux de vraiment toute fin de vie qui sont sortis genre un mois après la DS ou des conneries comme ça. Je rappelle que Shantae sur Game Boy Color est sorti genre un mois après ou avant la Game Boy Advance. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment partie des queues de chantier, enfin des queues de vie de la Game Boy Color. Mais bref, donc ça m'a fait marrer parce que j'ai vraiment effectivement regardé les stats et j'ai vu à partir du moment où la DS était sortie, bon, la GBA c'était fini quoi. Il y avait vraiment, ça n'intéressait plus personne. Il y a quelques jeux qui sont sortis, mais c'était vraiment tout à fait mineur.
Je suis en train de vérifier. Quand est-ce qu'elle est sortie la GBA Micro?
2005, je crois.
Je crois que c'est ça, ouais. Ça devait être ça, la même 2005, année que la DS.
Ouais.
C'est peut-être aussi ce qui a fait dire aux gens que finalement les deux consoles allaient cohabiter, alors que bon, la DS était rétrocompatible GBA, donc.
Oui.
C'était un peu bizarre, quoi. Mais bref. Je sais pas si vous rappelez de la GameCube. Vous rappelez de la GameCube ? C'était bien la GameCube.
C'était bien la GameCube.
Bah, je crois que la GameCube, c'est une des pires fins de vie que j'ai vues chez Nintendo. C'est-à-dire qu'en fait, la GameCube a décollé avec énormément de difficultés. 2002, sa meilleure année, c'est 2003, avec un petit peu moins de 200 titres sortis. Pendant ce temps-là.
Ah, quand même. J'aurais dit moins que ça, tu vois.
Ouais, mais pendant ce temps-là, du côté de la PS2, c'était plus de 600 titres sortis la même année. Voilà, donc, t'avais un rouleau compresseur en face, hein, on va quand même se le dire. Donc c'était très 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 compliqué. Et en fait, à partir de 2004, ça commence à descendre en flèche, et en fait, les deux dernières années de la GameCube ont été extrêmement pénibles. Pareil, ceux qui s'en rappellent, je crois qu'en 2006, on a eu genre une vingtaine ou une trentaine de jeux au total sur toute l'année.
Moi, je me souviens, c'est après, alors, je sais plus quand c'était Baton Kaitos, c'était mai 2005, un truc comme ça.
Oui, je pense que c'est ça, 2005.
Après, il n'y avait plus grand-chose. Hein. Il avait fallu attendre Wii Princess, pratiquement.
Oui, c'est ça, il y avait très peu de jeux. C'est-à-dire que même Nintendo éditait quelques jeux. Il y a genre Chibi-Robo, qui est un des jeux de fin de vie de la machine, qui est sorti en 2006. Je crois que le tout dernier jeu qui est sorti sur GameCube, c'est Ratatouille en 2007. Pour vous dire à quel point c'est compliqué. Mais en gros, à partir de 2004, la console est quasiment morte. Et la Wii ne sort que toute fin 2006, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, toute fin 2006. Donc ça veut dire qu'on a encore eu une fin de vie extrêmement compliquée.
Ouais, en fait, c'est dès mi-2005 qu'il n'y avait plus grand-chose sur GameCube. Quoi.
Ouais, je te dis, je pense que la descente a commencé même en 2004. Hein. Tu vois que la descente en termes de nombre de titres commence en 2004, tu vois qu'en 2005 ça continue à diminuer, et je veux dire, en 2006 il n'y avait vraiment plus rien, quoi. Tout le monde s'en foutait de la GameCube. C'était vraiment une année catastrophique. Pendant ce temps-là, du côté de Sony, vous savez quand est-ce qu'est sorti le tout dernier jeu sur PS2 ?
C'est 2014.
Pas un il est trop fort.
Sérieux ?
Oui, c'est 2014, c'est PES 2013, 2014 qui est sorti en 2013. Donc voilà. Non, c'est 2013.
Ouais, j'aurais dit un FIFA, tu vois. Mais je sais que c'était un jeu de foot à la con en des derniers.
Voilà, mais ça n'empêche pas que globalement, le pic pour Sony en termes d'année pour la PS2, c'est l'année 2005, c'est là où ils ont sorti le plus de software. Et en fait, tu vois que t'as un amortissement progressif. Et finalement, jusqu'en 2009, bah, globalement, ils vendent encore des consoles, ils vendent encore des jeux, il n'y a pas de problème, alors que la PS3 est déjà sortie depuis longtemps. Hein. Et sans aucun problème, je veux dire, la PS3, là, c'est sorti en 2006, elle a eu une première année très difficile, une deuxième année qui n'était pas évidente, mais à partir de 2009, bon, normalement, ils ont redressé la barre. Donc voilà, mais Sony continue à vendre des jeux jusque, oui, 2009-2010, sans problème, ça continue à sortir. Et on parle encore une fois, pas forcément de titres mineurs. Hein. Alors, pas des jeux forcément de Sony, eux, ils ont un peu abandonné la plateforme, c'est normal, mais voilà, il y a quand même des éditeurs tiers qui continuent à sortir leurs jeux dessus. Alors peut-être en partie grâce à la Wii, d'ailleurs je me suis toujours posé la question, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une époque où on avait beaucoup de jeux qui sortaient sur Wii et sur PS2. Genre 2009-2010 justement. Je pense à Silent Hill Shattered Memories, je pense à... Il y a un Indiana Jones, je crois, c'est pareil, qui est sorti sur PS2 et sur...
Oui, il était plutôt cool. Le Shattered Memories est sorti sur PS2 ?
Je crois qu'il est sorti sur PS2, c'est PSP-PS2 si je me rappelle bien. Oui, PSP-PS2, de mémoire.
Surprenant.
Voilà. En fait, si vous posiez la question, donc du côté de chez Microsoft, en fait, la stratégie était plutôt assumée, c'est-à-dire que la Xbox, ils l'ont littéralement tuée. Mais vraiment, c'est-à-dire que, je sais plus, je crois que c'est en 2006 où ils ont dit, bon, de toute façon, il y aura plus de jeux, maintenant ils sortent sur Xbox 360.
Bam, Red Ring of Death.
Ben, c'est ça. Et en vrai, c'est exactement ça. Hein. Je veux dire, côté Microsoft, ils ont assumé le fait que la Xbox, bon, sortie en 2001, finie en 2005, pas de problème. Ça ne nous dérange pas. Et effectivement, ils ont fermé les vannes. C'est assez étonnant, mais tu vois que 2007, c'est fini, il n'y a plus de jeux sur Xbox. Merci, au revoir. Pas de raison.
Ok.
C'est une façon de gérer la fin de vie de sa machine. Hein. On peut pas faire autrement.
L'euthanasie, quoi.
Bah ouais, là, littéralement. Et sur Wii... Alors là, c'est un peu plus étonnant, je trouve. Je sais pas si... Alors là, oui, c'est un petit peu particulier, parce que finalement, elle est sortie en 2006.
Just Dance 2020,
oui,
ou 2019.
2019-2020, je crois qu'il y avait un Shakedown Hawaii qui a dû sortir en 2020 ou 2021. C'était plus pour le gag. Mais c'est surtout, quand tu regardes la Wii, ça a été un succès phénoménal à sa sortie. Et vraiment, genre 2006, 2007, 2008, c'est l'ascension fulgurante. Et la redescente a été tout aussi rapide à partir de 2010. C'est fini. Pourtant, il y a encore 3 ans avant que la... Enfin, 2 ans avant que la Wii U sorte. Hein. Donc là, c'est pareil, c'est quand même assez étonnant. Voilà, à partir de 2011, globalement, le dernier gros jeu de 2011, c'est Skyward Sword de Nintendo, et après, c'est fini. Donc, t'as quasiment un an de disette entre la Wii et la Wii U, mais en fait, tu peux considérer qu'à partir de mi-2010, ça commence quand même à battre de l'aile. Bref, et je vais finir avec la Wii U. Ai-je vraiment besoin de vous rappeler 2015 ?
Bah, elle est morte aussi, moi.
Il y a eu un pic pour la Wii U, là.
Il y a eu un pic pour la Wii U, figure-toi, oui. En 2015, il y a eu presque 380 titres sortis sur Wii U.
Tant que ça, sans déconner, putain.
Oui, mais attends, ça compte tous les petits jeux à la con que t'as sur l'eShop. Hein.
Oh, putain.
Ouais, okay. Bah oui, voilà, forcément.
Ah, on en est là. On dirait des manœuvres à la Sony. Là,
écoute, on est un peu obligé, quoi. Mais c'est vrai que tu vois la chute vertigineuse entre 2015 et 2016. C'est genre, bon, ben voilà, tout le monde s'en fout. Je sais que Nintendo avait fini par sortir. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait SteamWorld 8, SteamWorld Dig qui était sorti en double pack.
Ouais.
Dans une des CPU, c'était les versions eShop Select ou un truc comme ça. C'était vraiment histoire d'occuper les rayons des magasins, quoi.
Oui, Nintendo, oui, c'est vrai qu'ils faisaient ça.
Nintendo n'en avait même tellement plus rien à foutre qu'ils ont sorti... c'était quoi, Amiibo Festival machin, là?
L'année 2016
chez
la
Nintendo,
course,
ouais. C'était un peu bof, hein, quand même. Hein.
Ouais, mais là, c'était vraiment... Enfin, c'était catastrophique, quoi. La fin de vie de cette console a été gérée de manière catastrophique. Alors, évidemment, on savait que la Switch était derrière, même si elle a été présentée que fin 2016, hein. Donc, on savait qu'il y avait un projet derrière NX... Donc, on savait que ça arrivait, mais c'est quand même assez catastrophique. Donc, le bilan que j'en tire, moi, c'est que globalement, une fois que la nouvelle console est sortie, ils ont beau te promettre tout ce qu'ils veulent, globalement, ils sortent plus rien sur la précédente. Hein.
Ouais, ça s'explique un peu quand même. Ta force de développeur, elle est pas infinie non plus.
On est d'accord, mais tu regardes chez Sony, c'est pas du tout comme ça que c'est géré. Ils ont vraiment... ils ont,
en first party, hein, je sais pas. En first party.
Alors, pas en first party. C'est sympa en first party, mais ce qui m'étonne, c'est surtout la partie, les third party, parce que, autant quand effectivement t'es une GameCube souffroteuse, en termes de vente, 21 millions d'exemplaires, donc c'est pas non plus... une Wii U, 13 millions d'exemplaires, mais tu vois, une Wii, avec ses plus de 100 millions d'exemplaires, je suis très étonné que les éditeurs tiers se disent « Ouah, finalement, c'est pas grave, on va pas sortir notre jeu dessus. »
Bah... La Wii, disons que bon, la puissance était un peu au rabais. Elle était un peu à part au niveau des autres par rapport aux autres consoles.
Ouais, il y a peut-être aussi un peu de ça. Mais tu regardes chez Sony, voilà, la PS2, elle est supportée encore genre 3-4 ans après la sortie de la PS3. Tu peux encore acheter des jeux PS2 neufs qui sortent et qui sont pas juste des jeux Phoenix Corporation, quoi. Voilà, tu regardes la PS4, c'est pareil, hein, ça a duré un petit moment. Là, ça s'est tassé depuis 2022-2023, en gros.
Est-ce qu'on sait comment... Je cherche des explications. Est-ce qu'on sait comment ça se passe côté coulisses? Genre, est-ce qu'il y a des incitations à passer sur la plateforme d'après?
J'en ai vraiment aucune idée. C'est pour ça que je me pose sérieusement la question.
Sous n'importe quelle forme, hein, que ça soit de l'aide au développement ou Ou du « Ah bah on va produire moins de galettes sur la console d'avant, du coup les galettes sont plus chères. »
Peut-être que c'est ça. Parce que j'ai l'impression que ça me donne, c'est que finalement, j'ai pas la sensation que Nintendo ferme véritablement le robinet. J'ai plus l'impression que ils vont aller fortement t'encourager à sortir ton jeu sur la nouvelle machine.
Mmh.
Ce qui a du sens, hein. J'ai pas de soucis commercialement parlant, évidemment que ça a du sens. J'ai pas de problème avec ça. La vraie question derrière, c'est comment c'est possible que chez Sony, finalement, ils en aient un peu rien à foutre. Est-ce que c'est parce que, genre, bon, bah, quand t'as un parc de 100 millions de machines, tu te dis, bon, vas-y, sors ton jeu, y a pas de problème. On fera ta promo, pas de soucis. Et chez Nintendo, ils disent, je sais pas, la Switch, t'as quand même 150 millions de machines dans le monde. Bah, je me dis que c'est quand même dommage de pas en profiter, quoi. Autant que toi, en tant qu'éditeur first party, tu mettes plus d'efforts dessus, je comprends. Mais de là à ce que le calendrier se vide à ce point-là, l'éditeur tiers qui va sortir son jeu sur Switch 2, il va forcément en vendre beaucoup moins que sur Switch, ça paraît évident.
Dans un premier temps, oui, c'est clair. Après, voilà, t'as l'effort de R&D et tout, il y a un moment, faut le payer. Ouais, c'est compliqué comme équation.
Je sais pas à quel point l'équation est simple. Ce que je constate, c'est que chez Sony, finalement, enfin, quand tu sors ton jeu sur PlayStation, en gros, bah, t'es quand même plus ou moins incité à continuer à le sortir sur PS4, même si la PS5 est sortie.
Elle fout de partout. La PS5 est sortie ? Ok.
Oui, je suis désolé, ça fait 5 ans, ça me fait toujours rire. Hein. C'est vraiment, c'est pas bien.
Hein. J'y pense, pour le chat parle de la 3DS. Le but, quand ils ont sorti la Switch, c'était aussi d'unifier l'effort de dev entre console de salon, console portable. Là, pour le coup, ça me choque pas qu'ils aient complètement abandonné la 3DS à partir de ce moment-là.
Surtout que, en fait, quand tu regardes les cycles de développement, console portable, console de salon, chez Nintendo, c'est souvent décalé de 2-3 ans. C'est-à-dire que la Game Boy Advance est sortie avant que la GameCube ne sorte, la DS sort avant la Wii, la 3DS sort avant la Wii U, et ainsi de suite. T'avais toujours un petit décalage qui fait qu'en fait, et je crois qu'il y avait une interview d'ailleurs de je sais plus qui disait que Nintendo, en fait, ils étaient pas assez gros finalement pour supporter deux systèmes en parallèle. L'effort de développement était devenu trop important pour supporter deux systèmes en parallèle. Et effectivement, t'as peut-être aussi ça comme raison chez Nintendo où je me dis, si ça se trouve, bah, la N64 en fait ils s'en tapent parce que bon, la Game Boy Advance ça fait bouffer tout le monde.
Mmh.
Et puis bah, tu mets ton effort de développement sur la GameCube parce que c'est la suivante. Et puis bah, les gens qui veulent acheter du Nintendo, la Game Boy Advance est là, il y a des jeux qui sortent, il n'y a pas de problème. Peut-être que ça peut faire partie ça peut être une partie de l'explication, on va dire, avant la Switch.
Avant la Switch, ouais. Je pensais aussi au niveau mise à jour de kit de dev, SDK, tout ça. Si t'as pas une équipe infinie, c'est compliqué de supporter deux systèmes en parallèle aussi. Deux systèmes au sens ancienne génération, nouvelle génération.
Oui, tout à fait.
Bah, alors, même si une fois que tu as ton SDK qui est dans un état complètement potable, rien n'empêche un tiers de l'utiliser pour la console d'avant. Ça, c'est... Oui.
C'est ça. Surtout que je me dis que globalement, le SDK, tu dois avoir un gros effort de mis dessus sur la première, la deuxième année, peut-être la troisième. Enfin, tu vois, à mon avis, à la moitié de la vie du truc, tu as fait à peu près le tour. Enfin, j'imagine que tu continues à corriger des bugs et des choses comme ça. Ça me paraît évident. Mais j'imagine que ton effort de développement, il est plus énorme. T'as un effort de support qui est réel.
C'est ça, support, mais ton effort, il passe sur la R&D de la console d'après.
Ouais. Oui, ça, je suis d'accord. Mais je suis d'accord sur le fait que t'es à un moment, t'es obligé de désallouer des ressources sur l'ancienne console pour les mettre sur la nouvelle. T'as pas le choix, ça j'entends. Mais voilà, encore une fois, ce qui me paraît étonnant, c'est plus Electronic Arts qui s'assoit sur un parc de 150 millions de machines.
Ouais.
Alors que, littéralement, j'avais vu, c'était, je sais plus, je crois que c'était Ubisoft... qui avait dit, un développeur d'Ubisoft, un studio d'Ubisoft, qui avait dit sur Wii, mais tu sortais littéralement n'importe quoi, tu le vendais, tu le rentabilisais. Parce qu'il y avait tellement de machines sorties que finalement, tu sortais un soft, t'étais sûr que tu le rentabilisais.
Tu parlais d'IEP, même chose, j'exclus pas qu'il se passe des trucs en coulisses, des fois un peu étranges, je comprends pas qu'il y ait aussi peu de jeux Electronic Arts sur Switch. Donc est-ce que c'est tout simplement... deux connards qui peuvent pas s'encadrer et ça va pas plus loin, tu vois.
Je sais pas, c'est pas impossible. Ce que j'ai vu, c'est que là, j'ai l'impression que côté EA, en fait, ils ont surtout envie de faire le plus de marge possible et que, en fait, tant que les cartouches étaient trop chères, c'était pas la peine. Là, maintenant qu'il y a des game key cards, ils s'en branlent. Mais ça me paraît pas logique parce qu'ils auraient très bien pu sortir, par exemple, un Madden 2021, 22, 23. Sur Switch, ça aurait cartonné, même si c'était juste en démat.
Ouais.
Je sais pas.
Il y a des trucs étranges. Ouais.
Bah, bon, des trucs que je m'explique. Ils ont... C'était eux, hein, c'était ça le FIFA, je sais plus quelle année, qui était le même édition. Que. Voilà. Qui était le même que l'année précédente avec juste le mercato à jour, hein, enfin.
Oui, après, ils ont fait des saloperies comme ça. Alors, si ça se trouve, alors est-ce que c'est côté technique que Electronic Arts est très 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 mal, s'y est très 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 mal pris et a pas du tout les technologies en interne pour développer sur Switch? Ce qui fait que les seuls jeux Electronic Arts qui sortent sur Switch, ce sont en fait des jeux de studio un peu mineurs, je pense à It Takes Two, bon, même si il a remporté le jeu de l'année, tout
oui,
ça, hein,
mais c'est...
je veux dire.
Oui, oui.
C'est pas Electronic Arts en interne avec le Frostbite Engine et tout ça.
C'est ça, ils viennent juste pour foutre leur tampon par-dessus, mais c'est quelqu'un d'autre qui a fait le job.
Ouais, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas quelle est la tambouille derrière. Mais pareil, côté... Alors sinon, côté Square Enix, ils ont quand même plutôt été assez supportifs de la Switch. Ils ont sorti quand même pas mal de trucs,
oh oui.
Même si c'est beaucoup de vieillerie.
Il y a à boire et à manger, mais il y a des belles cartouches. Octopath Traveler, par exemple. Tu vois, ouais. Dès le départ, ils étaient là.
Effectivement, ils étaient là dès le départ. Voilà, bref. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu étonnant. Donc, en fait, si vous aviez espoir que votre Switch continue à recevoir de nouveaux jeux, ben, je suis désolé de vous doucher, mais à mon avis...
Ouais, ça risque d'être compliqué.
Ouais, si le Metroid, ça va peut-être être le dernier.
Je pense que Metroid, ce sera le dernier, et je me demande si ce sera pas juste une cartouche de Switch 2 que tu peux mettre dans ta Switch 1. Je me
ouais,
tiens que... C'est pas impossible. Mais voilà, je suis désolé de vous le dire, hein, mais le calendrier a l'air de bien se vider. Alors peut-être que sur la fin de l'année 2025, il y aura quelques gros titres. Oui, il y a Tomodachi Life, effectivement.
Ouais, ouais.
Mais même quand tu regardes le dernier Nintendo Direct qui était dédié exclusivement à la Switch, bon, c'était quand même très très calme.
J'ai mon backlog qui me regarde en souriant, mais j'ai Xeno sur le bureau, ça fait chier.
Oui, alors il y a Rhythm Paradise aussi, d'accord, très bien, vous avez gagné. Enfin, ça fait pas des, c'est pas des gros gros jeux, toi. C'est ça qu'on veut dire par là. Je trouve ça très bien que Nintendo fasse un effort et dise, bah très bien, il y aura un Tomodachi Life, il y aura machin. On a quand même 2-3 petites cartouches à sortir, 2-3 petits trucs histoire de dire on n'abandonne pas la machine. Mais je serais pas très très étonné que Rhythm Paradise ils disent, bon bah finalement on le sortira pas sur Switch, on le sortira sur Switch 2. Je tomberai pas de ma chaise. Vraiment. Bref. Eh ben écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir, ça me paraît déjà pas mal. Oh, on a fait une belle émission.
Ok, elle est belle.
Dans 2 semaines, on aura une émission pré-Switch 2, ça va devenir très compliqué. Hein. Je vous le dis, ça va devenir extrêmement compliqué.
même nous, on gère mal nos fins de vie.
Ouais, non, mais là, on est sous respiratoire artificiel en attendant le 5 juin, quoi, on va être honnête. Du coup, je ne sais pas du tout de quoi on va parler. Il y a de bonnes chances qu'on fasse un sujet rétro, hein, je vous le dis, parce que je ne vois pas vraiment dans l'actualité des choses qui vont être bouleversantes d'ici 2 semaines. Bah, sauf si on a des leaks de fous qui nous viennent, donc voilà, je ne sais pas. Faudra peut-être essayer de se choisir.
Ah, ouais, il y aura pas un petit anniversaire rétro comme ça à faire là.
Il y a la Wii, mais c'est dans quelques mois. Donc voilà, on peut tenter. GameCube, on a déjà fait. On commence à en avoir fait pas mal. Hein. Peut-être que côté console portable, on n'a pas fait beaucoup. Peut-être que je sais pas si la Game Boy Advance n'est pas sortie en. Ah, remarque, il y a la DS. Non, je dis ça, la DS a dû sortir en mars ou avril 2005.
Ouais, chez nous c'est 2005 la DS. Bah du coup, elle aura 20 ans. On peut se faire une émission sur la DS.
Je crois qu'on n'a pas fait d'émission sur la DS. Je vais vérifier ça. Mais bon, peut-être qu'on fera ça. Peut-être qu'on fera ça, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, quoi qu'il arrive, on vous retrouve dans 1 semaine en podcast et dans 2 semaines en direct. On vous fait de très gros bisous. Et on vous dit à plus tard.
Bisous, bisous.
Bisous.